Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff Morin.
Courtier immobilier.
Et son co-animateur
Kevin Filion.
À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Salut tout le monde, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Vous étiez à l'écoute de la sauce, toujours avec mon acolyte Kevin, où ce qu'on reçoit plusieurs invités nichés sur l'investissement immobilier et sur l'immobilier, puis même le parcours entrepreneurial beaucoup. Ouais. Comment ça va Kevin?
Ça va bien toi?
Ça va super bien. Écoute, on a un sujet très intéressant. C'est ouais. Un sujet qui revient quasi à toutes les émissions par la bande, parce que, tu sais, on a-tu le droit de faire ça? On a-tu le droit de faire ça? Puis de quelle façon qu'on est capable de creuser un peu plus loin? Puis aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Richard Shermure. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Bien, très bien, merci.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur à l'école d'urbanisme de McGill. Vous êtes un spécialiste niché sur l'urbanisme.
Oui.
Puis vous allez être là pour partager un peu votre expérience avec nous.
C'est ça.
Good. J'aimerais ça qu'on puisse faire un premier topo. Pourquoi l'urbanisme? C'est quoi votre parcours? T'sais, juste de nous donner un peu la table de qui vous êtes.
D'accord. Alors, j'ai pas commencé en urbanisme. J'ai commencé en immobilier entreprise. J'ai fait des études en immobilier, en économie immobilière. Et ça, c'était en Angleterre. J'ai travaillé à Londres, près de la City, dans une grosse boîte de consultants d'immobilier d'entreprise. Ensuite, j'ai quitté ça pour une plus petite boîte, mais pareil, de la consultation. On faisait ça en France et en Espagne. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Après quoi, pour des raisons familiales, il y a toujours une femme là-dedans. Elle m'a amené ici à Montréal. Elle m'a amené ici au Québec, à Montréal, où j'ai fait une maîtrise en urbanisme à McGill. L'idée, c'était juste de me reconvertir un peu pour poursuivre une carrière immobilière ici. Mais de fil en aiguille, j'ai fait un PhD et puis je suis devenu prof d'université. Et entre autres, en ce moment, j'enseigne des cours sur l'immobilier et l'urbanisme.
Ça, c'est vraiment le fun. Puis vous êtes enseignant actuellement à l'Université de McGill.
C'est ça.
Qui est quand même une université reconnue, je ne veux pas dire mondialement, mais tu sais, vous avez quand même un créneau très bien développé aussi. Puis au niveau urbanistique, si on peut le dire, je pense que vous avez réussi à développer des professionnels au-delà du guide, au-delà de tout ça, là.
Ben, c'est ce qu'on essaye de faire. D'ailleurs, on m'a invité à enseigner là-bas il y a maintenant 7-8 ans, et en partie c'était pour essayer de rehausser le côté économique et immobilier de la maîtrise. Et ce que j'essaye de faire, on essaye de faire en sorte que les étudiants, au moins ceux qui suivent mon cours, soient à la fois dans l'immobilier, comprennent évidemment comment ça fonctionne, et dans l'urbanisme, pour comprendre comment les municipalités doivent réfléchir au développement de leur territoire. L'important, c'est que les étudiants comprennent le côté économique et financier de l'immobilier, parce que souvent les urbanistes n'ont pas conscience des tensions qui existent dans l'immobilier, du rôle que joue le promoteur. Pour eux, le promoteur, c'est le grand riche qui construit des maisons, comme ouais. Kevin ici, mais c'est pas toujours aussi simple que ça.
Ouf, pas sûr. Puis, mais ça, c'est votre background en immobilier, en entreprise, que vous dites, que vous faisiez en Europe. C'était quoi, grosso modo, un peu vos tâches ou qu'est-ce qui vous a formé de ce côté-là?
D'accord. Alors, mes tâches, lorsque je travaillais, étaient de deux ordres. D'abord, il y avait le côté, je dirais, quotidien, qui était l'évaluation immobilière. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on faisait rentrer l'argent au jour le jour. Il y avait aussi le côté courtage, d'assez gros investissements. Parce que c'était l'époque, on parle de bulle immobilière, c'était la fin des années 80, où on était dans une bulle immobilière qui a crashé sans doute. Peut-être parce que je suis arrivé dans le marché.
En toute modestie,
voilà. Mais il y avait quand même pas mal d'opportunités d'investissement. C'était les gros investisseurs du nord de l'Europe, les Suédois, les Anglais, où l'immobilier ne fonctionnait pas, qui lorgnaient le sud, qui lorgnaient l'Italie, qui lorgnaient l'Espagne. Et moi, à l'époque, donc, je travaillais dans une grosse boîte de consultants. On était basé à Paris et on avait des produits dans le sud. Et l'idée, c'était de faire le raccord entre les grands investisseurs du Nord qui ne connaissaient pas le Sud, et puis les vendeurs du Sud qui ne comprenaient pas la logique du Nord. Pour eux, on vendait ça sur un bout de table. Et moi, je disais non, il faut avoir des documentations, il faut documenter les loyers, il faut avoir tous les papiers du produit que vous voulez vendre. Eux, ils disaient, ben non, ici, ça se fait sur le bord d'une table. Je dis, ben non. Si vous voulez vendre aux Suédois, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils sont vraiment très carrés.
Et c'est quasiment l'anthropologie un peu presque.
C'était très culturel. Ouais. Et j'arrivais à jouer ce jeu-là parce que je suis britannique, mais j'ai grandi en France. Donc, je comprends un peu le côté latin. Et puis, bien de parenté, je suis britannique. Donc, j'étais placé entre les deux. Ouais. Et c'était surtout ça, c'était d'anthropologie, de la sociologie que j'essayais de faire pour faire comprendre à chacun, aux Suédois, aux Anglais, qui ne pouvaient pas s'attendre à la même rigueur.
Ouais.
Des vendeurs du Sud, mais aux vendeurs du Sud qui ne pouvaient pas faire n'importe quoi, sinon ils n'allaient pas vendre.
Et ça devait être des assez gros produits financiers ou dans ça devait pas être des petits.
Non, c'était des gros produits. On travaillait avec des sociétés d'assurance, des fonds de pension du Nord qui cherchaient des gros investissements. Donc, à l'époque, c'était plusieurs centaines de millions de francs, mais ça, c'était un bout de temps. Donc, ouais. On parle quand même de centres commerciaux, d'édifices de bureaux dans le centre-ville. Et c'était ce genre de choses sur lesquelles on travaillait. Alors, évidemment, il y avait beaucoup de travail pour peu de résultats. On ne vend pas ce genre de choses tous les jours. Ouais. Donc, il y avait un énorme travail de relationnel aussi à faire.
Okay. C'est vraiment intéressant. Puis, au niveau du Québec, là, vous amenez votre expertise aussi que vous avez vécue en Europe, puis vous venez transposer aussi vos connaissances dans l'enseignement avec le programme que vous offrez à McGill. Puis, qu'est-ce qui distingue un peu le programme de McGill au niveau de l'urbanisme?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui le distinguent. Il y a d'une part le fait que nos étudiants, beaucoup de l'enseignement se fait par atelier. C'est de l'enseignement très pratique. Alors, d'autres écoles le font, mais nous, c'est le cœur de notre enseignement. L'autre chose, on a quand même, et c'est quelque chose que j'essaye d'apporter au programme, un point de vue, je dirais, un peu critique sur l'urbanisme. C'est-à-dire qu'on est des urbanistes, ça c'est sûr, mais il faut comprendre qu'il y a d'autres acteurs. Il n'y a pas que les urbanistes qui construisent la ville, et notamment, mon expérience me fait porter le regard sur les promoteurs, sur les constructeurs, pour essayer de sensibiliser nos étudiants au fait que la ville ne se construit pas tout seul et qu'en fait ce ne sont pas les urbanistes qui construisent la ville. Les urbanistes essayent d'organiser ce qui se passe, mais finalement ce sont les promoteurs, ce sont les financiers qui font la construction et donc on est obligé de les comprendre et puis de pas les voir comme l'ennemi. Et je pense que c'est ça un peu le danger parfois.
Puis c'est souvent ça le problème. Ben puis oui. Tu sais, moi je pense que l'urbanisme ou le comité d'urbanisme de la ville de Lévis par exemple ou de la ville de Québec, c'est eux qui viennent établir la stratégie de développement ou de la croissance de la municipalité, la densification de la municipalité. Puis les promoteurs sont des partenaires de la ville pour mettre en application la tactique pour réussir la stratégie globale. Puis ça, c'est quand même super important. Puis, tu sais, malheureusement, on a toujours l'impression qu'avec les municipalités, les promoteurs sont toujours des méchants. Puis c'est toujours eux. Puis tu sais, la réponse de l'urbaniste, c'est toujours non. C'est toujours plus facile de dire non que de faire des vérifications. Puis tu sais, qu'est-ce que j'aime de votre approche, c'est d'amener aussi une application beaucoup plus grande en disant, ben écoutez, c'est des partenaires, c'est ceux-là qui vont venir à faire rayonner la municipalité. C'est ces entrepreneurs-là et ces promoteurs-là qui vont faire les constructions puis qui vont prendre aussi le risque. Parce que la ville,
Non, mais c'est ça, c'est ce que j'essaye beaucoup d'apprendre à mes étudiants, ou de les sensibiliser à la prise de risque, que ces promoteurs, ils prennent des risques, que le temps est très important, que plus on prolonge les négociations, ben, plus le risque grandit, plus il y a des risques de perte, plus les circonstances changent, et que donc, non seulement de comprendre ce que veut faire le promoteur, mais aussi de comprendre que de laisser un dossier 3 mois sur la tablette, c'est un coût énorme pour un promoteur, financièrement certes, mais en termes de risque, que les choses changent et que le promoteur n'est pas capable de prévoir.
Ça peut mettre en péril aussi le développement du projet, ça peut mettre en péril aussi la croissance de la municipalité qui peut être retardée parce que l'entrepreneur ne réalisera pas le projet dans le même temps. Ça peut retarder aussi les projets structurants au niveau du transport en commun, au niveau des tramways, etc., etc., parce que justement, les entrepreneurs sont mis sur la sellette, sont mis de côté, puis c'est nous qui prenons la décision, puis attend qu'on prenne la décision. Puis il y a aussi, tu sais, au niveau des municipalités, un des grands défauts que moi je trouve, c'est que la main droite ne parle pas à la main gauche. Puis là, ça devient très difficile d'arriver à coordonner l'ensemble d'un projet. Puis récemment, on a fait un projet d'ensemble avec la Ville de Québec pour un 54 logements. Puis l'approbation a pris 18 mois. Puis tu sais, encore une chance qu'on avait des clients qui étaient capables d'attendre parce qu'ils auraient pu autant vendre à quelqu'un d'autre. Puis ils ont attendu, mais 18 mois pour une approbation parce que là, oups, le département. Puis la COVID, malheureusement, a eu beaucoup le dos large aussi pour les différents professionnels des municipalités. Puis Christy, ça devient compliqué, là.
Mais je pense qu'il y a quelques problèmes de base, à mon avis, dans la manière dont on enseigne l'urbanisme. Et une des choses, c'est que beaucoup d'urbanistes n'ont jamais fait une analyse financière d'une promotion. Alors oui, on comprend que l'analyse financière, ça reste un peu théorique, mais il suffit de faire un phasage et de dire, ben voilà, si on décale donc la vente finale de 6 mois, voilà ce que ça coûte en argent, juste en taux d'intérêt puis en taux de maintien du bâtiment. Donc, de manière très simple. Mais une fois que les étudiants ont vu, ah oui, c'est sur une promotion, enfin sur un développement de quelques millions, eh bien ça va coûter 100 000 $. Et comme la marge est assez maigre, eh bien ces 100 000 $, c'est peut-être la marge du promoteur.
Puis le 100 000 $ peut être fluctué par les taux d'intérêt, peut être fluctué par les coûts des matériaux, etc. Fait que la marge est à 100% assumé par le promoteur et l'entrepreneur.
Et ça, c'est l'autre chose qu'on essaie d'expliquer, c'est qui prend quel risque. On dit, ben, dans la promotion, il y a les banques qui prennent très peu de risques, ensuite, il y a le financement mezzanine, c'est un peu plus risqué, mais celui qui est vraiment à dos, c'est le promoteur qui risque de perdre sa maison s'il n'y a pas la marge
suffisante. Et, puis, tu sais, ils sont toujours cautionnés souvent de leur projet aussi.
Ben, c'est ça. Et on parle beaucoup de cette question de cautionnement, que vraiment, les promoteurs, ils n'ont pas que de l'argent à perdre, c'est leur maison, c'est leur voiture, enfin, c'est tout. Et que, non pas qu'il faille avoir pitié de tous les promoteurs, mais il faut comprendre la business pour que ensuite, lorsque on prend une décision urbanistique sur les ou que on veut faire attendre un projet, qu'on comprenne pourquoi le promoteur est anxieux et puis qu'on respecte ça et puis qu'on essaye de faire avancer les choses.
Ouais, puis je pense que aussi dans le processus de travailler en partenaire et tout ça, c'est que oui, la face qu'on voit du projet, c'est le promoteur, mais derrière ça, c'est des citoyens qui vont rester dedans aussi, des commerces qui vont s'établir. Fait que dans le fond, c'est une autre couche de gens qu'on sert aussi, là. C'est parce que c'est le promoteur, parce qu'il ne s'est pas développé encore, mais quand on dit de faire attendre qu'il y ait des délais supplémentaires, oui, il y a pour le promoteur, mais il y a aussi peut-être des gens qui ne trouveront pas leur résidence au bon moment ou qui vont être obligés de voir d'autres avenues ou un développement commercial ne se passera pas, le timing ne sera plus bon, fait que tu sais.
Non, mais il y a certainement, c'est comme des dominos, puis tout ce qui vient après la promotion se voit retardé ou parfois n'a pas lieu. Et, je pense qu'il faut aussi comprendre, surtout les étudiants, lorsqu'ils rentrent en urbanisme, ils rentrent avec une vision assez sociale. Ils veulent améliorer le monde, ce qui est une bonne chose. Je pense que c'est très bien. Mais ce qui vient souvent avec cette vision d'améliorer le monde, c'est que les promoteurs, l'argent, c'est pas bien. Faut essayer de les empêcher. Et ce qu'on essaye de faire, et puis les étudiants comprennent, ils sont pas bêtes, mais il faut quand même qu'on leur explique et puis qu'on leur montre que effectivement non, il faut travailler avec les promoteurs. Et oui, certainement, il y a parfois des projets loufoques, hein, il faut pas se le cacher. Mais beaucoup de temps, un promoteur qui veut construire 54 unités, c'est 54 unités qui vont servir à en partie résorber la crise du logement. Donc c'est pas rien ça non plus. Puis il faut vraiment essayer tout en respectant les grands projets de municipalité. On ne peut pas mettre n'importe quoi n'importe où, mais dans ces grandes lignes, de faire en sorte que les projets avancent vite, que les permis avancent rapidement aussi.
Oui. Puis, tu sais, une des choses qu'on a déjà vécu énormément avec les municipalités, c'est que le moment où on fait une demande d'information, ben le courriel qu'on reçoit, il s'autodétruit après notre lecture, là, tu sais, où il n'y a plus aucune information qui était pertinente ou véridique, etc. C'est très difficile souvent d'avoir un avis favorable avec la municipalité. Puis, tu sais, j'aime beaucoup l'approche de vouloir travailler en partenariat avec les promoteurs, les entrepreneurs. Puis, tu sais, on a vu aussi dans différents secteurs, différents projets, certains égos, hein. Tu sais, il y a des gens qui disent « c'est moi le boss, c'est moi le juge à savoir si le projet va se réaliser ou pas, puis c'est moi qui va prendre les mérites si toi tu vas réussir ou pas en affaires. » Puis on l'a vécu à plusieurs niveaux, au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'amélioration de bâtiments, etc. Puis il y a toujours quelqu'un à quelque part que lui va dire « écoute, c'est moi le boss, c'est moi qui décide, que ça te coûte 100 000 de plus, ça me dérange pas. Pour moi, c'est moi qui va décider à la fin du projet. »
Non, mais ça c'est énormément problématique. Malheureusement, on ne peut pas changer l'ego des gens. On peut essayer de les sensibiliser, mais...
Mais c'est parce qu'il y a du politique, d'ailleurs. Alors, là, on parle de l'urbanisme qui est assis et qui est dans l'administration de la ville, mais ça. À l'air de ça, il y a le politique, il y a le timing, il y a les élections, il y a tout.
Absolument, et c'est ça qui est important à savoir, c'est que les urbanistes, je pense qu'en général, ils font ce qu'ils peuvent, mais il y a les structures municipales qui sont à revoir. Certains urbanistes peut-être comprennent moins bien, mais j'ai le sentiment que les urbanistes ont un peu d'expérience, ils comprennent ce que je suis en train de dire. C'est surtout les jeunes qui rentrent, qu'il faut essayer de les sensibiliser. Mais ensuite, effectivement, il y a le côté politique, il y a tel copain du maire qui veut préserver sa vue, puis qui ne veut pas qu'il y ait 6 étages, qui en veut 5. Et ça, finalement, ce n'est pas public, ça se passe en coulisses, oui. Mais ça se répercute ensuite sur les promoteurs.
Puis ça, on le vit considérablement. Écoutez, on vient mettre la table un peu sur c'est quoi le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Je vous remercie, M. Charmure, de nous partager ces informations-là. Vous êtes à l'écoute de La Bulle immobilière sur CJMD 96.9, l'alternative radio. La Bulle immobilière est diffusée tous les samedis de 11h à midi, juste après la sauce, mais juste avant Zone parallèle.
CJMD. Pas pour les deux.
Votre Poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre Poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votrepoutine.ca, 3 emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de votre poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. 2 pour 1 sur toutes nos poutines pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à votrepoutine.ca.
Cette publicité s'adresse à un public de 18 ans et plus.
Que ce soit à Saint-Romuald, Lévis, Lauzon, Saint-Nicolas ou Sainte-Marie, pour tous les articles de Vapoteur,
le choix, c'est VapKing.
C'est facile de même. VapKing.
Je l'utilise, VapKing.
Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job.
Clarifier ton objectif de carrière. CV personnalisé. Coaching pour entrevue.
TrajectoireEmploi.com.
Offense. Offense. Defense.
Defense. Come on, les boys. On va s'en occuper de ce thermopompe-là.
ARMC Climatisation et Chauffage est une entreprise fondée par des entrepreneurs dynamiques qui offrent leurs services pour l'entretien, la réparation et l'installation de thermopompes murales à Québec. Pour une soumission selon vos besoins et surtout votre budget, 418-456-1169. www.rmc.ca.
RMC! Go, go, go!
Oui, bonjour, je cherche quelque chose pour développer les facultés motrices.
Oui, on parle de quel type de moteur?
Hydraulique pour un tracteur.
On a ça.
Princess Auto. Des idées, des outils, puis tous les morceaux qu'il vous faut. Bientôt ouvert à Lévis.
La maison de cognac la plus titrée,
Courvoisier, se refait une beauté.
Et oui, nous avons revampé notre image de marque au complet aux couleurs d'antan pour mieux vous exprimer la joie de vivre française à travers nos cognacs Courvoisier VS,
VSOP et XO.
Nouveau look,
même excellent cognac fruité et floral.
Vous pouvez se boire seul ou en cocktail, comme vous pouvez venir en déguster dans le menu du tout nouveau Cognac Avenue Bar dans Saint-Roch.
Le Courvoisier VS,
toujours à $63.25.
Dans un sac près de chez vous.
96.9.
De retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion de Plan de match Renault. Pour vos besoins d'analyse, d'optimisation, pour vos projets immobiliers, contactez-le directement sur sa page Facebook, Plan de match Renault au pluriel. Ou sinon, est-ce qu'on peut te rejoindre par téléphone?
Absolument. 418-456-7717.
7717. Aujourd'hui, nous sommes avec Richard Charmure, directeur de l'école d'urbanisme de McGill. On parle justement d'urbanisme, de comment ça fonctionne, etc. Mais un des sujets qui nous demandait à savoir, puis qui nous, pas qui nous tardait, mais qu'on voulait vraiment...
Qu'on se pose tout,
c'est quoi les tendances, tu sais, au niveau de l'urbanisme? C'est quoi? Est-ce que c'est vraiment la densification où on veut donner des écosystèmes, des milieux de vie, de la qualité de vie? C'est où est-ce qu'on s'en va avec les nouvelles tendances au niveau de l'urbanisme?
Ben, c'est une bonne question parce que c'est les deux. Et les deux ne sont pas toujours compatibles. D'une part, on essaye de densifier les villes pour éviter l'étalement urbain. On est conscient des problèmes environnementaux, du réchauffement climatique. On veut moins urbaniser ou on veut mettre moins de béton. Donc on veut densifier des endroits qui sont déjà bétonnés et aussi redévelopper ce qu'on appelle des brownfield sites, des zones industrielles qui sont maintenant vétustes, un peu comme l'est de l'île, plutôt que de s'en aller vers les grandes banlieues. Donc, on essaye de densifier et une des grandes tendances, c'est ce qu'on appelle les TOD, en anglais les Transport Oriented Development, c'est d'essayer de densifier autour des gares, autour des intersections de transport public. L'idée étant que ces endroits-là sont des zones accessibles, donc il peut y avoir des emplois et il peut y avoir des habitations, mais aussi à partir de ces endroits-là, on peut aller à d'autres TOD, donc on peut, mettons, avoir un TOD à Laval et puis on peut facilement aller en centre-ville. Donc ça, c'est une grande tendance qui était déjà dans beaucoup de plans d'urbanisme, ça fait depuis une dizaine d'années, mais qui prend de l'essor. Mais on veut aussi avoir ce qu'on appelle des quartiers vivables. Et des quartiers vivables, c'est souvent des quartiers qui sont à petite échelle, avec des bâtiments peut-être de 2-3 étages, et avec de la verdure. Alors, on voit bien que c'est pas tout à fait de la densification, ça. Donc, c'est peut-être plus dense qu'un grand développement de banlieue, mais ce n'est pas la densification, ce ne sont pas des grandes tours. Parce que autour des transports publics, on s'attend à ce qu'il y ait des tours, on s'attend à ce que ce soit quand même assez dense. Et ces quartiers plus vivables, c'est pas tout à fait la même chose. C'est 2-3 étages, de la verdure et tout ça. Mais ces deux sont pas nécessairement compatibles. On peut difficilement avoir un quartier qui soit à 2-3 étages et plein de verdure autour d'une gare. Ou alors on perd l'effet de concentration. Ah oui. Et en ce moment, dans l'urbanisme, on essaye de pousser les deux, mais on n'a pas tout à fait. C'est pas clair comment on va les concilier. Par contre. Ça, je dirais que c'est l'espoir des urbanistes. Mais la réalité de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a énormément de développement en banlieue. Les métropoles canadiennes, la grande majorité de la croissance de la population se passe hors du centre-ville, se passe dans les banlieues. Il y a des études qui ont montré qu'entre 2000 et 2016, on n'a pas encore le chiffre de 2020, il y a plus de 90 ou 95 de la croissance de la population dans les grandes villes, c'est faite à l'extérieur du centre et puis du péricentre. Alors, en termes de pourcentage, les centres-villes, jusqu'à la Covid, croissaient rapidement, mais en termes de nombre absolu de personnes, ce sont les banlieues, et parce qu'il y a une grande demande pour ce genre de
besoin.
De vie, c'est ça, voilà.
Ouais. Parce que c'est une question de coût, ou qu'est-ce qui fait que les gens restent là, malgré qu'on essaie de concentrer les efforts à...
Alors,
la ville attrayante.
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une question de coût, c'est-à-dire que souvent, au cœur des villes, on peut avoir des jeunes et puis des gens qui viennent de commencer leur carrière, qui veulent bien se tasser un peu, mais dès qu'on veut un peu plus d'espace, l'espace devient très cher proche du centre. Et ensuite, il y a les cycles de vie. Donc, même si, en ce moment-ci, il y a peut-être un peu moins de jeunes avec des enfants qu'il y a 10 ou 15 ans, il n'empêche que beaucoup de personnes arrivées à la trentaine veulent avoir un garage. Si c'est pas pour leurs enfants, c'est pour leur Harley ou pour leur deuxième voiture. Il y a ce désir, et c'est un peu dans la culture, pas seulement nord-américaine, mais européenne aussi, qu'arrivé à un certain moment, on veut montrer qu'on a réussi en ayant une maison un peu plus grande, en pouvant garer ses voitures devant. Et donc, on a tendance à aller un peu vers l'extérieur. Ce qui n'empêche pas qu'il y a certaines personnes qui viennent au centre. Le centre-ville de Montréal a cru, mais le centre-ville de Montréal est passé de 60 000 à 100 000 habitants en 20 ans. Donc, on a eu 40 000 habitants de plus, alors que les banlieues, on a eu 500 000 de plus.
Oui, c'est ça.
C'est ça, la différence.
Puis, c'est quand même fou parce que, tu sais, ces chiffres-là, souvent, ne sont pas mis de l'avant non plus. On pense toujours, ah oui, les centres, mais tu sais, les banlieues reçoivent souvent même plus. C'est pas 10 fois plus.
Oui, et c'est plus étalé, fait que c'est moins
visible. C'est moins visible, exactement. C'est qu'on a tendance à ne pas remarquer ce qui est étalé. Et au contraire, on remarque ce qui est concentré. Donc on remarque le fait qu'à Montréal, au cœur de la ville, il y a 40 000 personnes de plus. Et c'est très bien, les cafés restent plus ouverts, il y a plus de dépanneurs et tout ça. Mais on oublie que ces 40 000, face à la croissance de la population de la RMR de Montréal, c'est très peu.
C'est très peu. Juste pour revenir sur le principe du TOD et des quartiers vivables, est-ce que c'est possible de les faire cohabiter dans le sens, est-ce que c'est possible que tout près justement du réseau structurant, ça soit assez dense, puis que tranquillement, ça se dilue ou ça laisse place à dire, bon ben moi je veux plus d'espace, je vais dans un quartier plus bas, je vais être à 10, 15, 20 minutes. Y a-t-il une façon de marier les deux ou?
Je pense qu'effectivement, il y a une façon de marier, puisque vous suggérez, c'est tout à fait ce qui pourrait être fait, et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire. Mais il reste que souvent dans les discussions, il y a une opposition de ces principes plutôt qu'effectivement d'essayer de les faire se marier, parce qu'ils peuvent coexister, comme vous l'avez décrit. Et c'est vers là qu'on va devoir s'en aller, parce que surtout dans les grandes villes, le principe des TOD, il y a beaucoup d'avantages. L'idée, c'est que ça évite la congestion, ça évite les voitures sur les rues, puis ça, c'est pas une mauvaise chose, même si on a sa propre voiture, on veut pas toujours être pris dans le trafic avec. Donc le fait de pouvoir se déplacer plus facilement, et aussi d'avoir des cœurs urbains, des centres urbains, pas que dans l'hypercentre de la métropole ou de la ville, mais aussi en banlieue, pour qu'il y ait des endroits un peu vivants, où on peut aller, où il y a des activités culturelles, on peut aller bien manger, boire un coup, sans nécessairement aller au centre-ville. Je pense qu'on s'en va vers là. On peut avoir un peu moins de densité à quelques minutes de l'hypercentre. On peut ensuite aussi organiser des systèmes de transport léger, c'est-à-dire des navettes qui amènent les gens vers le cœur. Oui. Donc, l'idée, c'est quand même de réduire l'emprise de la voiture, de réduire l'emprise énergétique de notre manière de vivre, tout en permettant aux gens d'avoir des choix.
Oui. Puis, dans des points que vous avez parlé, là, moi, il y a deux choses vraiment importantes. On a parlé du mode d'habitation. Justement, tu sais, quand on est jeune, on n'a pas les écoles, la proximité, on veut vivre des expériences. Tu sais, le centre-ville va être plus en demande, si on veut. Puis, au fil du temps, on va grandir, on va avoir une nouvelle famille, on va vouloir offrir des services, etc. Puis oui, on va des fois vouloir aller peut-être plus en banlieue, etc. Puis, dans notre mode de vie, va arriver aussi le moment où ce que les enfants vont avoir quitté, la maison va devenir trop grande, etc. Puis là, on veut se rapprocher des hôpitaux, fait qu'on va revenir vers les centres, puis on le vit de plus en plus, ça.
Oui, ben ça, on le voit. On le voyait il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, puis on le voit de plus en plus. C'est maintenant des personnes dont les enfants ont quitté la maison, qui recherchent une certaine centralité, pas nécessairement l'hypercentre, parce que l'hypercentre, il y a souvent du bruit, il y a souvent d'autres choses un peu moins désirables, mais quand même des quartiers autour du centre, proches des hôpitaux, souvent relativement accessibles aux enfants et aux petits-enfants. Ça aussi, ça devient quelque chose auquel on réfléchit. Et on voit ça à plusieurs échelles. On voit ça au cœur des métropoles, mais on voit ça aussi à l'échelle de la province. C'est-à-dire que il y a des zones où on voit pas mal de jeunes retraités, des 60-70, puis à partir de 75-80, il y a un recentrage.
Oui.
Le remarque.
Puis moi, je suis courtier immobilier, puis on le vit, là. T'sais, on suit les modes d'habitation de nos clients, puis tu sais, on demande le pourquoi qu'ils vendent, le pourquoi qu'ils veulent relocaliser, pourquoi qu'ils choisissent ce nouveau secteur-là. Puis c'est des discussions qu'on a actuellement avec des baby-boomers qui s'en viennent, reviennent vers le centre, reviennent vers les RPA, reviennent vers les services, parce que là, oups, on est à 15-20 minutes, s'il arrive quoi que ce soit, mes enfants sont loin, parce que, tu sais, les enfants sont pas nécessairement dans le même village.
L'entretien de la maison aussi.
Exact.
De passer nos fêtes de semaine. Je pense à mes parents, là, tu sais, ils ont rapetissé, entre autres, pour tout ce que tu as nommé, et aussi peut-être pas passer tout son temps à entretenir, à prendre soin, à nettoyer la maison.
Puis le mode d'habitation change aussi. Ouais. On va avoir un chalet, fait que là, on va vouloir faire l'entretien au chalet. On va pas vouloir faire l'entretien en plus de la maison. Ouais. Fait que, tu sais, tous ces modes d'habitation-là viennent influencer de beaucoup la migration, soit en région ou, tu sais, la migration vers les centres aussi. Mais arrive aussi toute l'histoire de l'étalement urbain. Puis, tu sais, moi, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de comprendre pourquoi que c'était tant important un tramway pour la région de Québec, pourquoi qu'on voulait pas un troisième lien pour la région de Québec, parce que, tu sais, on allait influencer positivement l'étalement urbain, puis qu'est-ce qu'on voulait, c'est offrir des services, jusqu'à temps qu'on reçoive nos amis d'Immostar, où ce que eux nous expliquaient que, tu sais, l'immigration était quand même importante, puis qu'est-ce qu'on veut faire, c'est offrir des services aux gens qui vont venir à l'extérieur du pays pour pouvoir, à même le centre, pouvoir se déplacer à l'interne, justement avec des tramways, justement avec des transports structurants, avec des autobus, etc., pour pouvoir travailler, aller à l'épicerie, puis se loger dans un endroit, puis dans un périmètre, sans toutefois avoir une voiture pour être obligé de faire de la distance. Mm-hmm. Puis une des choses que je trouvais qui est arrivée avec la COVID puis la pandémie, c'est, on parlait de mode d'habitation, mais là, c'est le mode de travail. Le télétravail, l'Internet change énormément la façon de voir le travail, la façon de recruter des gens, mais aussi notre mode d'habitation. Parce que là, présentement, une des premières questions qu'on se fait demander quand on vend des propriétés en région, est-ce que l'Internet fonctionne avec des tonnes de briques? Puis si la réponse est oui, on a beaucoup de demandes. Fait que, tu sais, je veux pas dire que maintenant, toutes nos fiches descriptives mentionnent
Starlink.
Internet, genre haute vitesse, mais, tu sais, ça fait partie des critères maintenant de sélection. Fait que, tu sais, autant qu'on voulait pas avoir un troisième lien pour l'étalement urbain, que l'Internet amène par elle-même l'étalement urbain. Là. Puis, vous en pensez quoi de ça?
Ah, ben, ça, c'est certain. Je veux dire que mon expérience personnelle, c'est la même chose. Nous, on a acheté en Estrie en 2008, donc une maison de campagne, mais la première question, c'était est-ce qu'il y a l'Internet qui fonctionne? Je suis prof d'université, donc je donne mes cours, je passe 3-4 jours semaine à l'université, mais je peux aussi travailler par partir de chez moi. Si on voulait passer des longues fins de semaine à la campagne, il fallait absolument que je puisse avoir l'Internet. Ça, c'était il y a 12 ans, et puis c'est maintenant avec la Covid, c'est, ça a explosé. Et je pense que ça, alors l'Internet joue un rôle, mais aussi, comme les gens restent plus chez eux, ils peuvent aller vivre un peu plus loin. Et donc, une des choses qu'on voit surtout autour de Montréal, je l'ai pas observé, au moins dans les chiffres, autant autour de Québec, c'est une grande croissance dans les zones périmétropolitaines. Je pense à la Montérégie, je pense aux Laurentides, qui sont à 40-50 kilomètres de Montréal. C'est-à-dire que les gens peuvent facilement descendre à Montréal s'ils ont un rendez-vous. Ils peuvent y aller 2-3 jours semaine. Mais ils peuvent donc passer 3-4 jours semaine à vivre donc dans la campagne, dans un milieu qu'ils préfèrent. Mais donc il faut que l'Internet fonctionne, il faut qu'il y ait de l'espace pour que une personne, sinon deux, ait des bureaux de maison. Donc la reconfiguration interne des maisons change.
Des espaces. Puis tu sais, au niveau des maisons traditionnelles, bungalow, trois chambres au rez-de-chaussée, salle de bain, aire de vie ouverte, un peu salon, cuisine, salle à manger, sont en train de changer pour avoir des espaces, sans dire fermés bureaux, mais avoir des espaces bureaux avec la luminosité où ce que moi je vais pouvoir travailler, parler au téléphone, puis ma conjointe va pouvoir être sur un même étage que moi, dans son bureau, parler au téléphone, sans nécessairement qu'on vienne...
À table de cuisine.
Ouais.
C'est fini, ce mode-là.
Non, mais c'est ça. Je pense qu'il y a deux ans, on travaillait en urgence, on était sur le bord de la table de cuisine, et maintenant qu'on perçoit un peu mieux comment ce sera à long terme, les gens qui vont travailler chez eux se disent, ben, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là.
De façon macro, t'sais, là, vous disiez que de 2000 à 2016, tous les services d'urbanisme, les villes essayaient de retenir les gens, d'éviter l'étalement qui se faisait de lui-même.
Oui.
Là, on comprend que depuis deux ans, il y a une accélération de tout ça qui fait que ça va encore plus à l'encontre. Fait que si on est une ville, si vous êtes aux commandes d'une ville, c'est quoi la suite? Comment qu'on ajuste notre urbanisme? Puis comment qu'on réussit à avoir la mission qu'on essayait déjà de se donner?
Ben, je pense qu'il faut quand même se dire si, c'est pas nécessairement une seule ville, c'est l'ensemble des villes au Québec qui doivent un peu se coordonner, parce que c'est pas Montréal seul qui peut résoudre le problème, par exemple. Il faut que Montréal voit avec les banlieues. Mais ce qui est important, c'est peut-être de prendre acte que maintenant les gens vont, ou plus de monde va vivre en zone périmétropolitaine, mais de dire ce qu'on veut, c'est d'éviter d'abord qu'il y ait trop d'étalement, donc faire en sorte que même les développements périmétropolitains soient relativement denses, et on en parlait tout à l'heure, de cette densité moyenne qui permet aux gens quand même d'avoir un petit jardin, un petit garage, mais peut-être dans des townhouses plutôt que des maisons séparées, de faire en sorte qu'il y ait des points de densité où il y ait suffisamment de services, mais en banlieue, pour que les gens soient moins obligés de se déplacer. Et à Montréal, par exemple, on a le REM, de donner un accès facile aux gares du REM pour que les gens qui ont besoin d'aller en centre-ville ne prennent pas leur voiture. Parce qu'au fond, ce qu'on veut, c'est éviter la consommation d'espaces qui ne sont pas déjà urbanisés. Et on veut aussi éviter l'utilisation de la voiture, non pas qu'on est contre la voiture, mais la congestion est énorme. La voiture n'est pas très efficace comme moyen de se déplacer en ville. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à tout ça.
Puis, tu sais, au niveau de la consommation de l'essence, le prix aidant, ça, c'est une chose. Mais l'autre chose aussi, au niveau de l'utilisation de la voiture, il faut faire attention aussi. Tu sais, par exemple, au niveau de la densification de Montréal versus la densification de la région de Québec, ben on n'a pas le même type de population. Puis, tu sais, je donne un exemple. Si on prend la région de Boston, où ce que tu sais, il va en avoir 7 à 8 millions, qui est la population provinciale de la province de Québec, sauf que ça va être concentré dans la région métropolitaine de Québec. Fait que c'est sûr que là, les tramways deviennent importants. C'est sûr que là, le métro devient important, etc. Mais dans le contexte actuel de la ville de Québec, la voiture devient un incontournable aussi parce que nos points de déplacement avec nos enfants, avec les écoles, avec notre résidence, notre milieu de travail, fait en sorte que ces éléments-là sont tellement éloignés un de l'autre qu'on n'a pas le choix d'avoir une voiture pour pouvoir répondre à nos besoins. Puis,
non, ça c'est certain. Et on est pris avec l'histoire du développement de Québec et de Montréal. Et je veux dire que même dans les banlieues de Montréal, c'est pareil. Je pense que le cœur de Montréal jusqu'à aux limites du métro, on peut vivre sans voiture, mais dès qu'on dépasse les limites du métro, ça devient très difficile. Je pense qu'on est pris avec ce qu'on a, et ça, il faut le reconnaître, qu'on ne va pas faire disparaître la voiture. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de faire en sorte qu'on s'en serve moins ou vraiment lorsque c'est nécessaire. Et donc, si on veut se déplacer vers le centre de Montréal ou vers le centre du Québec, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Mais il faut que ce soit facile, parce que si ça devient très difficile, si on doit marcher 500 mètres sous la pluie ou dans la neige, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un système, il y en a beaucoup en Angleterre, qui s'appelle du park and ride, où on garde la voiture proche d'une gare, et puis on est à quelques mètres de la gare, et on prend le train, puis on va en centre-ville. Ça, c'est plus rapide. Et ça fonctionne bien. Mais il faut vraiment que ce soit pensé. Et les urbanistes doivent réfléchir à comment on peut aménager tout ça pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des vastes mers de parking. Donc, on parle de parking superposé, mais ça coûte cher. Pour être proche de la gare, ça ne se fait pas dans un champ, ça se fait
étage
à étage. Donc, il y a beaucoup de réflexions à faire. Et on en est au tout début, parce qu'on est pris avec quand même les développements. Les villes d'aujourd'hui ont été construites à partir des années 50, à partir de la construction des autoroutes, où vraiment il y a eu l'étalement urbain. Ben maintenant, on a l'étalement. Et on peut.
Il faut essayer de le ramener.
Il faut essayer de le ramener. Au moins, la première chose, c'est de ne pas en faire plus. Ouais. Et la deuxième chose, et d'où toute cette discussion sur la densification, c'est-à-dire, ben, on a un périmètre urbain, même s'il est grand, ben, construisons dedans. N'allons pas encore plus loin. Parce qu'il y a quand même de la place au sein de Québec, ben, au sein de Montréal.
Construire, mais aussi, comme on dit, ce qui s'est passé de façon très accélérée depuis 2 ans, c'est peut-être de penser à requalifier aussi des immeubles de par le contexte où le commercial, le bureau et tout ça. Et de plus en plus vacant. Je pense que vous me dites à Montréal, c'est quand même très, très, très
flagrant. Ah ben, je pense que,
puis,
à Montréal, ben, maintenant, on voit qu'il y a beaucoup moins de monde au centre-ville. Alors, quand je dis beaucoup moins, les rapports de la Chambre de commerce et puis mes propres études, on estime qu'une fois que les choses se stabilisent, il y aura peut-être à peu près, à un moment donné de la semaine, il y aura peut-être 20% de moins de monde au centre-ville. Donc, d'un côté, c'est bien, il y a 80% du monde, mais 20%, c'est beaucoup. Si c'est 20% de moins de bureaux utilisés, il va y avoir des bureaux vacants, et ça va être pas la place Ville-Marie, ça va être des bureaux de classe B ou C, un peu en péri-centre. Et qu'est-ce qu'on fait avec?
Puis ça vient avoir un impact aussi pour les commerces, parce qu'il va y avoir 20% de moins de personnes qui vont venir aller chercher
un
repas au restaurant, un café.
Ah, ça, c'est certain. Les locaux commerciaux, alors eux, ils sont en train de se battre contre deux fléaux. Il y a 20% de moins de monde, mais aussi les achats sur l'Internet, les achats à distance qui ont vraiment pris de l'essor et les gens se sont rendus compte que pour beaucoup d'achats, oui, il y en a certains où on veut aller voir, mais beaucoup, quand on achète un ordinateur, l'ordinateur, c'est l'ordinateur, on peut le commander. C'est pas comme une veste où on peut-être.
Est-ce que c'est simple de convertir? Parce que, tu sais, moi, une des choses que je réfléchissais au niveau des immeubles à bureaux, tu sais, on est déjà localisé dans des prime spots. C'est souvent du base building, où, tu sais, on a des colonnes à tous les 15 pieds, on a un extérieur, puis l'intérieur, généralement, on pourrait les stripper. Il y a déjà un ascenseur. On est capable de moduler l'ascenseur pour donner des usages exclusifs à ceux, les résidents ou les commerçants. Est-ce que c'est simple de reconfigurer ou de revoir, par exemple, un immeuble à bureau puis de le convertir en immeuble à logement?
Alors, en général, c'est moins simple qu'on le pense parce que c'est vrai que c'est des bâtiments standards en béton. Donc, a priori, c'est pas trop compliqué. Le problème, c'est la profondeur des plateaux. Que lorsqu'on construit des habitations, on peut pas avoir trop profond. Il faut quand même de la lumière et de la ventilation, alors que dans un bureau, on peut avoir des plateaux beaucoup plus profonds. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'espace central? Alors, est-ce qu'on va trouver un moyen? Alors, ça, c'est peut-être une question à laquelle les architectes peuvent répondre. Mais ce que j'ai entendu, c'est que ça pose quand même des problèmes assez sérieux. Il y a peut-être moyen de faire descendre un genre d'atrium, parce que comme c'est en béton, on peut percer le béton en respectant les poutres. Donc il y a, mais ça devient des conventions assez lourdes. Mais comme c'est des bâtiments très bien localisés, c'est des charpentes qui sont quand même solides. Il y a moyen de les convertir, mais c'est pas aussi simple qu'on le pense. C'est pas juste une question, ben on va changer l'affectation du bâtiment et puis dans deux ans on va avoir des habitations.
Ben non, mais définitivement ça débute quand même. Je pense que j'ai vu la semaine passée, on avait parlé avec Francis chez Graph Synergy, mais je sais pas si c'est un de ses clients, mais il semble que j'ai vu à Toronto, je crois, ou Vancouver, qu'il y a déjà des assez gros bâtiments que l'enveloppe est débloquée puis qui commencent à requalifier l'immeuble en résidentiel. Évidemment, c'est des gros montants, plusieurs dizaines ou centaines de millions, mais. Non, il va y avoir des projets qui vont se faire, donc une expertise qui va se développer. Puis...
Effectivement, l'expertise va se développer. On va trouver qu'il y a certains bâtiments qui peuvent être convertis et d'autres pas, mais ouais. C'est certain qu'on va regarder ça de près. Mais il y a quand même des alternatives aussi. Donc je pense que ça, c'est une vocation, c'est d'en faire du résidentiel. Mais dans des villes, on parlait dans les années 80 ou 90, des lofts. Ça, c'était des vieux bâtiments industriels en briques et qui ont attiré pas mal de start-up, pas mal d'artistes et autres. Et on se dit, ben maintenant, il n'y a plus de lofts. Les lofts, c'est devenu cher. Mais il n'y a aucune raison que ce soit des briques. On peut faire ça dans le béton aussi. Et donc, une autre possibilité, c'est que certains de ces bâtiments gardent leur vocation économique, mais plutôt que d'être des bureaux, deviennent des ateliers. Parce que c'est du béton, ça. C'est du dur. Et il y avait une grande demande de petites entreprises pour avoir des espaces au centre. Eux, ils ont été évacués, au moins je pense à Montréal, vers Anjou et ailleurs. Bah, peut-être maintenant il y a une possibilité pour qu'ils reviennent et ça rendra le centre-ville plus intéressant, ça fera vivre le centre-ville plutôt que d'avoir que des Pricewaterhouse.
C'est ça, parce que le centre-ville va changer, la nature va changer. Moi, je reviens toujours avec la même question. Jeff va me dire, c'est encore la même question, mais tu sais, oui, requalifier des immeubles commerciaux, des immeubles à bureaux en résidentiel, mais maintenant, pourquoi, comme citoyen, on a le goût d'aller vivre en plein centre-ville si maintenant on a la possibilité de télétravailler et que nos bureaux ne sont plus là? Tu sais, c'est
en même temps, il y a toute une question de coût aussi, parce que, tu sais, on donne des services, il y a les métros, il y a le transport en commun, il y a toutes les taxes aussi au niveau des centres versus en banlieue, que ça va coûter moins cher parce qu'il y a moins de services, tu sais. Puis quand on va vraiment plus loin, là, où ce que, tu sais, on est plus dans des campagnes où ce que là, tu sais, il n'y a pas de services municipalisés d'eau ou d'aqueduc, ben, les taxes sont encore moins chères. Fait que, tu sais, il y a toute l'histoire de coûts aussi, là.
Alors, il y a l'histoire de coûts. Mais à l'inverse, il y a l'histoire des revenus, parce que des centres-villes du type Montréal, et puis j'imagine à Québec, mais que je connais moins bien, eux, ils sont en train de dire, ben, d'où vont venir notre financement municipal, parce que le financement municipal, ça reste quand même les taxes immobilières.
85% des revenus, c'est pas 90, proviennent des taxes.
Et tout ce qu'on vient de décrire, ça va correspondre à une baisse de la valeur de l'immobilier au centre-ville, mais ça, c'est des gros générateurs de taxes pour ces villes-centres. Oui. Donc, est-ce que les villes-centres vont pouvoir se maintenir? Alors, je pense que oui. On a déjà vu des époques où les centres-villes périclitaient. Au début des années 70, le centre de New York, c'était quand même pas génial. Les années 80, le centre de Montréal périclitait aussi. Mais ça va peut-être prendre 10 ou 15 ans pour retrouver la nouvelle forme du centre-ville. Ouais, c'est ça, voilà.
OK. Ben écoutez, c'est vraiment intéressant. Puis, pour vrai, on peut avoir des segments de 30 minutes. Oui. Là, c'est quand même très simple. Nos émissions sont disponibles en podcast sur notre site web jean-françois-morin.ca ou sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et Balados.
Vous écoutez CGMD 96.9.
Votre poutine a un univers de poutine à découvrir. Votre poutine, c'est des frites fraîches de l'île d'Orléans, de la sauce maison, des produits artisanaux. Votrepoutine.ca, trois emplacements à Québec. Redécouvrez la poutine, celle de votre poutine. Suivez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. 2 pour 1 sur toutes nos poutines, pour un temps limité. Disponible au comptoir ou à votrepoutine.ca.
Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job.
Clarifier ton objectif de carrière, CV personnalisé, coaching pour entrevue.
TrajectoireEmploi.com.
Le quartier de Lune, ça brasse. Sur la 3e avenue à Limoilou, c'est là que ça se passe. Les meilleurs deals, les plus le fun des concepts, le plus beau monde. Le summum du nightlife décontracté. Des hommages, des gros shows, des DJ. On t'attend au quartier de Lune, mon loup.
Au Malou, tous les soirs.
Suivez la page du quartier de Lune pour être informé sur ce qui s'en vient.
Conteneurs Interpro. Vente, modification et livraison. Peu importe où, maintenant à Lévis, Charlevoix, Gaspésie, Montréal et dans les Laurentides. Modification de conteneur neuf, un seul voyage ou usager. 10, 20, 40, 45 pieds en inventaire. Sur Facebook, conteneur avec un S Interpro ou conteneurinterpro.com.
Oui, bonjour, je cherche quelque chose pour développer les facultés motrices.
Oui, on parle de quel type de moteur?
Hydraulique pour un tracteur.
On a ça.
Princess Auto. Des idées, des outils, puis tous les morceaux qu'il vous faut. Bientôt ouvert à Lévis.
Cet été, G-Barbecue est le traiteur pour vos événements. 10 à 300 personnes équipées de leur arsenal culinaire au charbon de bois. G-Barbecue fournit et déplace son staff sur place, où tu veux, et clé en main.
Mariage, corporatif,
party de famille
ou de bureau,
appelle Mathieu pour réserver
gbbq.com.
Le bar Sport Vegas.
Du beau monde, du vrai fun. La bière est pas chère, puis l'ambiance est juste débile.
Pour une soirée nightlife ou simplement pour un moment entre amis,
le bar Sport Vegas. 2340 Boulevard Saint-Anne à Québec. 969.
La station qui brasse le Québec.
Vous êtes à l'écoute de la Bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin Filion. Vous avez des besoins en immobilier, contactez notre équipe, l'équipe Jean-François Morin, jean-françois-morin.ca ou sur mon téléphone cellulaire au 418-801-8011. Je me suis questionné si je le donnais, mais tout le monde le connaît. Fait qu'on n'a pas le choix. On parle avec M. Richard Chermure, directeur de l'école d'urbanisme de McGill. On parle d'urbanisme, puis c'est donc intéressant comme sujet. Un des points que j'aimerais amener dans notre troisième segment, c'est qu'est-ce qui va donner la valeur à un bien immobilier dans le contexte qu'on est actuellement?
Oui, alors... La valeur de presque tout bien, ça dépend de l'offre et de la demande. Puis en ce moment, il y a des questions qui se posent à la fois au niveau de l'offre et au niveau de la demande. Alors, les biens immobiliers, il y en a de toutes sortes, mais si on pense à l'habitation, en ce moment, beaucoup de personnes prétendent qu'on vit une crise immobilière. Il n'y a pas assez donc d'habitation, ce qui fait évidemment augmenter les prix parce qu'il n'y a pas assez d'offres. Mais pourquoi il n'y a pas assez d'offres? Et c'est ça vraiment la question. Ce n'est pas que l'offre et la demande, c'est pourquoi il y a une telle offre, pourquoi il y a une telle demande. Un des problèmes d'offres, on peut dire que c'est en partie des urbanistes. On ne permet pas la construction de suffisamment de bâtiments. Et il y a tout un mouvement qui est en train de dire qu'il faut assouplir un peu les règlements d'urbanisme. Et ça, c'est effectivement un problème. Mais l'autre problème, c'est un problème, une question plus financière. Ça fait 20 ans que beaucoup de personnes financent leurs dépenses courantes sur la base de réhypothèques. Donc au niveau politique, il y a un problème. Si on augmente l'offre de logement et on fait baisser la valeur, eh bien les gens vont perdre leur capacité de dépense. Et donc il y a une question macroéconomique qui fait qu'en ce moment, on tasse un peu l'offre pour permettre aux gens donc d'emprunter sur la valeur immobilière, mais ce qui crée des problèmes donc d'offre d'habitation. Il y a au niveau de la demande, il y a aussi des grands changements en ce moment. On a déjà évoqué la Covid. Il y a peut-être moins de demandes pour le centre-ville, plus de demandes pour le pays métropolitain, plus de demandes pour les appartements ou les habitations où on peut faire des petits bureaux. Mais aussi, la demande est beaucoup, évidemment, influencée par les taux d'intérêt. On a eu des taux d'intérêt très, très bas qui ont fait augmenter les prix. Et là, on est en phase, et on a vu même aujourd'hui, aux États-Unis, les taux commencent à augmenter, ce qui va nécessairement réduire la capacité des personnes d'emprunter et ce qui va faire tasser les prix un peu. Et je pense que ça, il va falloir qu'on s'y attende. On a vécu 20 ans de croissance des prix au Québec et je pense qu'il va y avoir un tassement. Et finalement, les questions démographiques, il y a un vieillissement de la population, beaucoup plus de personnes se séparent, les ménages sont plus petits et ça augmente la demande. On a besoin de plus d'unités de logement. Et tout ça, ce qui fait augmenter la demande ou ce qui fait baisser l'offre, ça affecte la valeur d'un bien immobilier.
Ça change le travail, le rôle et la mission des services d'urbanisme en ville aussi. C'est le premier élément que vous avez nommé au niveau de l'offre. C'est eux qui ont un mot à dire ou qui peuvent soit ouvrir ou fermer les valves ou...
Eh bien, effectivement, les services d'urbanisme ont un rôle à jouer. Je pense que leur rôle, c'est pas le seul rôle. C'est pour ça que j'évoquais pas mal d'autres choses. Parce qu'il y a quand même des personnes qui prétendent que la seule entrave à la construction, ce sont les urbanistes. Ça, je pense, c'est une exagération. Mais il est certain que plus les règles urbanistiques sont strictes ou sévères et moins on permet de la construction, eh bien, moins il y aura d'unités et plus la valeur des biens existants va augmenter. D'ailleurs, il y a la directrice de Prével, Laurence Vincent, qui a fait une intervention à la Chambre de commerce la semaine dernière, qui, justement... Elle expliquait les déboires qu'elle a avec les services d'urbanisme de la ville de McGill. Il y a un grand projet sur un terrain vague à côté du pont Jacques-Cartier qui allait avoir, je pense, c'était 2000 unités d'habitation. Mais parce que la ville veut un quartier plus vivable, le projet a été ralenti, le nombre d'unités baisse. Et là, il y a une vraie incompréhension entre la ville d'une part et la promotion d'autre part. Mais tout ça... Ça revient à la valeur immobilière, parce que si ce genre de limitation de l'offre se passe partout à Montréal, c'est sûr qu'on ne va pas résorber...
Ça diminue.
Oui, ça diminue l'offre, et donc les prix vont rester très élevés. Alors quand on est propriétaire, c'est très bien, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas propriétaires, qui veulent accéder à la propriété, et je pense surtout aux jeunes, qui pour eux, pour l'instant, ils sont face à un mur. Et lorsque on a des entraves du type urbanistique que Laurence Vincent a décrit, bien on peut se demander si David ne pourrait pas revoir un peu certains de ses manières de prendre des décisions, ne serait-ce que pour avoir une clarté dans ce qui peut être fait pour que les promoteurs ne prennent pas des risques et doivent ensuite revenir sur leur projet.
Puis est-ce que ça se peut aussi que les règles d'urbanisme soient mise en place sur une prévision qui va peut-être ne pas refléter exactement les besoins futurs? Parce que, tu sais, on est toujours à prévoir le futur, mais on ne sait pas comment que le futur va réagir, dont la COVID qui est arrivée dans nos vies, dont l'étalement urbain, dont le nombre de séparations qui augmente, qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin d'autant de grands logements versus qu'on a eu à un certain moment besoin de grands logements. Fait que, tu sais, on a plusieurs régions dans la région de Québec où on doit avoir un pourcentage de grands logements. Peut-être qu'au fil du temps, l'urbanisme va moduler aussi des zonages déjà existants, où ce que tu sais, il y avait un nombre de grands logements exigés, où ce que tu sais, ça va changer au fil du temps pour peut-être ramener ça à des plus petits logements ou pour répondre à une nouvelle offre ou une nouvelle demande par rapport à tout ça.
Oui, ben je pense que c'est les urbanistes doivent modéliser leur plan. Le problème, c'est que ça prend souvent une dizaine d'années à changer un zonage. C'est que les plans d'urbanisme, même si dans les lois ça va être renouvelé tous les 5 ans, en réalité c'est après à tous les 10 ans qu'on revoit ça. Et donc ça avance très lentement, mais il y a quand même des nouvelles tendances en urbanisme, et il y en a un qui pourrait être intéressant. C'est, je connais que le terme anglais, c'est form-based code. C'est où on fait un zonage non pas tant sur le type d'unité, le type d'habitation, mais sur la forme générale du bâtiment. C'est-à-dire qu'on dit voilà les normes architecturales, voilà les normes de hauteur, puis en gros faites ce que vous voulez à l'intérieur. Alors, j'exagère un peu, mais ça, c'est une tendance qu'on voit dans plusieurs villes. Et même, il y a certaines banlieues de Montréal qui ont commencé à planifier certains endroits comme ça, ce qui donne une beaucoup plus grande liberté aux promoteurs à l'intérieur d'un cadre. Évidemment, on ne peut pas construire n'importe quoi, mais à l'intérieur d'un cadre architectural et d'occupation du sol, peuvent en fait construire les unités dont le marché a besoin.
Donc, juste basé sur l'architecture, mais pas sur l'usage.
Exactement.
Voilà. Avec de la volumétrie, puis on essaie qu'il n'y ait pas de...
C'est ça. Et évidemment, il y a des usages qui sont moins compatibles que d'autres. Donc, par exemple, que ce soit commerce, bureau, habitation, c'est pas trop grave, mais on va pas mettre une usine, évidemment, on s'entend, dans une zone résidentielle.
Ou on va toujours demander d'avoir un usage mixte, par exemple, le rez-de-chaussée commercial, puis les unités résidentielles par le dessus, mais après ça, faites-le comme vous voulez, là.
Ben, c'est ça. Mais dans les normes de ce qu'on attend d'un point de vue visuel et d'un point de vue de
D'apparence,
c'est ça. Et je pense que ça permettrait donc aux promoteurs de pouvoir réagir plus rapidement et de pouvoir livrer au marché ce dont le marché a besoin maintenant et pas ce dont les urbanistes pensaient que le marché aurait besoin 10 ans avant lorsqu'ils faisaient leur plan.
Exact, parce que c'est une des contraintes les plus importantes qu'on va vivre par rapport à ça. Puis c'est pas nécessairement... Puis c'est là que moi, je trouve que le promoteur devient un partenaire puis un allié à la municipalité justement pour répondre à un besoin de la population, parce que si la municipalité empêche un promoteur de faire des petites unités parce que pour lui, ça pourrait être rentable, mais en même temps, ça coûte que si c'est rentable pour lui, ça coûte qu'il y a un besoin pour ce type de logement-là, puis le fait d'amener plus de gens, bien, va faire en sorte qu'on va amener une vitalité aussi dans la ville. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant comme vision par rapport à ça. Puis une des choses que vous enseignez aussi à l'université, c'est aussi d'avoir, oui, une valeur du projet, de pouvoir faire une analyse financière de base. Vous n'allez pas aller embarquer dans les grands paramètres de qualification d'un immeuble ou de financement, etc., mais au moins d'amener ça pour vos étudiants, pour qu'il y ait toujours ce souci financier-là en arrière. Puis ça, je pense que c'est un pas en avant là, sur l'urbanisme, mais beaucoup. Là.
Non, mais ça, c'est certain. Il y a deux raisons pour lesquelles je fais ça. C'est d'abord, je pense que les urbanistes doivent comprendre comment fonctionne le financement d'un immeuble. Donc, on achète le terrain, il y a les constructions, il y a les coûts connexes, il y a le financement, on doit réfléchir à la vente. Et on réfléchit à la vente au début du projet, donc ils comprennent que quand le projet dure 24 mois, bah, comment on fait pour prévoir la valeur? Bah, je dis oui, c'est un problème, c'est ça le risque. Donc on passe à travers tout ça. Mais l'autre chose, c'est qu'une fois qu'ils ont un peu compris comment ça fonctionne, je pense que ça ouvre la porte au dialogue avec les promoteurs, parce que c'est une manière de penser à l'immobilier. Alors, les urbanistes, c'est sûr qu'ils pensent à la ville, qu'ils pensent à l'avenir de la ville, à comment aménager le territoire, et c'est très bien. Mais il faut aussi qu'ils comprennent que lorsqu'ils parlent à un promoteur, le promoteur, il ou elle, est face à des chiffres, est face à un projet qui doit être financé, qui doit avoir lieu assez rapidement pour que la marge soit faite. Et s'ils comprennent comment cette analyse est faite, ben je pense que ça ouvre une porte au dialogue.
Puis tu sais, le point le plus important, vous l'avez mentionné, là, la faisabilité d'un projet n'est pas sur l'esthétique, mais sur le rendement financier. Puis du moment où ce que le rendement financier n'est pas atteint, l'urbaniste n'atteindra pas ses objectifs, puis le promoteur non plus.
Puis tu sais, moi, je pense dans la vision aussi du partenaire, c'est que là, vous disiez tantôt, s'il n'y a pas juste l'urbaniste qui peut bloquer un projet, évidemment qu'il y a tout le contexte économique. Fait que là, si les taux montent dans ce qui s'en vient, il y a peut-être nécessairement moins de promoteurs, moins de développement, tout ça. Fait que en tant que ville, si tu reçois moins de projets, après ça, c'est difficile de continuer à développer avec un certain rythme. Fait que aussi bien être très flexible au moment où les gens ont le contexte économique, comme les taux bas des dernières années, pour ouvrir les valves, puis faciliter, puis être dans l'approche collaborative, parce que ça va peut-être pas être ça dans les 10 prochaines années, si les taux montent.
Mais ça, c'est un point très intéressant, et d'ailleurs, il y a des urbanistes qui ont écrit là-dessus, qui est de dire que les urbanistes ne peuvent que faire leur métier lorsqu'il y a de la croissance économique. Exact. Parce que s'il n'y a pas de construction...
Mais c'est de la business.
C'est de la business. Les urbanistes peuvent orienter la business, mais ne sont pas créateurs du business. Et une fois qu'on a compris ça, il faut vraiment qu'on travaille avec les promoteurs lorsque les temps sont bons, lorsqu'il y a des profits à faire, parce que sinon, la vie ne va pas avancer. Et je pense que, comme je dis tantôt, les urbanistes d'expérience, ils comprennent ça, mais l'important, c'est que les jeunes urbanistes ne prennent pas 10 ans à l'apprendre. C'est si on arrive à ouvrir les yeux ou alors à apporter cette sensibilité avant qu'ils rentrent sur le marché du travail, avant qu'ils prennent une décision, eh bien, ça veut dire qu'on sauve 10 ans donc d'apprentissage qui est souvent fait peut-être sur le dos des promoteurs.
Fait que la meilleure façon, c'est de passer par McGill.
Ben oui, évidemment.
puis définitivement, puis de se former aussi à l'Université McGill pour avoir justement les conseils de M. Richard Shermur, directeur à l'École d'urbanisme. Si on veut avoir des renseignements, par exemple, au niveau de l'urbanisme, au niveau du programme de McGill, etc., de quelle façon qu'on peut se renseigner?
Ben, la meilleure manière serait de m'envoyer un courriel. Donc, c'est richard.shermur@mcgill.ca. Donc, Shermur, c'est Shermur. McGill, mcgill.ca.
Parfait, c'est quand même très simple. Monsieur Shermur, je vous remercie infiniment de votre présence.
Merci.
Pour vrai, c'est un coup de cœur. J'aurais voulu parler avec vous d'urbanisme pendant vraiment longtemps. C'est des enjeux pour plusieurs d'entre nous sur différents projets, sur de la densification, sur de l'optimisation d'immeubles. C'est toujours un des éléments clés, c'est de se rapporter toujours au zonage pour s'assurer que ça répond à nos besoins. Vous nous avez quand même très bien outillé aussi sur c'est quoi la vision, vers où qu'on s'en va et de quelle façon le faire. Je vous remercie infiniment de votre présence.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Merci. Vous étiez à l'écoute de la bulle immobilière diffusée tous les samedis à 11h. N'oubliez pas le bingo demain. 150 000 déjà remis à nos participants. Merci beaucoup. Passez une belle journée.
CJMD 96.9.
CJMD 96.9.
Tassez-vous les paupières.
Offense! Defense!
Come on, les boys! On va s'en occuper de ces thermopompes-là!
RMC Climatisation et Chauffage est une entreprise fondée par des entrepreneurs dynamiques qui offrent leurs services pour l'entretien, la réparation et l'installation de thermopompes murales à Québec. Pour une soumission selon vos besoins et surtout votre budget, 418-456-1169. www.rmc.ca.
RMC! Go, go, go!
Découvrez l'expérience Cité Sportive et repoussez vos limites avec une équipe dynamique. La Cité Sportive située à Pintendre vous offre une promotion à prix imbattable sur son abonnement de 4 mois à la salle d'entraînement. Offre valide jusqu'au 31 mai.
Informations au citésportive.com et sur la page Facebook.
Les Barbies de la région de Québec recrutent dans leur département de service. On cherche des aides-bars, hôtesses, commis débarrasseurs, suiteurs et même un gestionnaire. Les gens avec le cœur à l'ouvrage auront toujours de l'avancement chez nous. Salaire et conditions à discuter. On est plus que compétitifs.
Au cinéma Lido, cinéma des chutes, on fait tout popper. Le maïs, le son, l'image, les sourires, les journées, les soirées. On s'éclate à l'année longue. Concours, ciné-cartes, cartes cadeaux, prix spéciaux. Rien d'impossible quand on a une entreprise avec un comptoir à friandises. On peut même écouter deux films de suite, entrer le jeudi pour un petit set ou louer une salle et devenir la star. Cinéma Lido, cinéma des chutes à Lévis et Saint-Nicolas. Ça fait plus de 40 ans qu'on se fait du cinéma et c'est à chaque fois une première.
Problème de crédit? Besoin d'une voiture? LBB Auto.
Vitrerie Globale est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de portes et fenêtres, manivelles, barrures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froides de fenêtres, de portes, bas de portes et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Globale à Lévis, visitez notre boutique en ligne. Vitrerieglobale.ca.
Portes et fenêtres Revêtement Lévis est une entreprise familiale à la recherche d'installateurs de portes et fenêtres.
Salaire très compétitif et ambiance de travail exceptionnelle.
Pour information ou entrevue,
418-837-1310.
Portes et fenêtres Revêtement Lévis.
Un peu plus de 3 ans après sa fondation, Armoire PMM ne cesse de grandir et étend leurs services sur l'ensemble du territoire de la province de Québec. Dotée de machinerie à la fine pointe de la technologie, la plus grande usine de fabrication et grâce à sa capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine sur mesure, haut de gamme, avec des comptoirs en granit ou en quartz? Un simple appel avec nous et votre rêve pour...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.